RFJ Info.
Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonsoir. La formation à la vie politique s'ouvre aux hommes cette année dans le Jura. Les cours étaient réservés aux femmes jusqu'à présent. Ils permettent notamment d'appréhender la communication avec les médias. La France, toujours ivre de bonheur au lendemain de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de football. Les joueurs doivent descendre les Champs-Élysées à Paris au milieu d'une marée humaine. Le FC Basse-Cour cherche à s'organiser après l'incendie qui a ravagé son stade. Le club de football attend l'installation de containers. Il a obtenu l'inversion de son premier match prévu à domicile. Météo, les nuages devraient être de plus en plus nombreux demain au fil de la journée. Des orages ou des averses seront possibles localement dès le milieu de l'après-midi. Il fera entre 22 et 26 degrés demain. La vie politique, ça s'apprend et plus seulement pour les femmes dans le canton du Jura. La formation mise en place depuis 2013 pour la gente féminine s'ouvre aux hommes cette année à la suite de diverses sollicitations. Elle se divise en trois modules. Un seul sera donné de manière mixte, alors que les deux autres se dérouleront séparément pour les femmes et pour les hommes. Les cours comprennent notamment la préparation d'une intervention orale et écrite ainsi qu'une sensibilisation à la communication avec les médias. Pour la déléguée à l'égalité entre femmes et hommes, de tels cours ne risquent pas de formater le discours des participants. Angela Fleury.
Chaque individu est différent. Un homme est un homme, une femme est une femme. Donc déjà, par rapport à ça, on fonctionne différemment. Ensuite, quand on répond, par exemple, à un journaliste, donc il est question de répondre dans un contexte bien précis, avec les connaissances que chaque personne a. On peut même encore y ajouter le stress, le trac qui peut venir déranger tout ça. Non, je pense simplement, à travers cette formation qu'on donne, c'est simplement des bases qu'on peut poser. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce qui manque, en fait, c'est peut-être certains outils de se dire, bah, tiens, voilà, moi je vais répondre à un journaliste ce matin, jusqu'où je peux aller dans les indications que je donne, jusqu'où j'ai le droit d'aller quand je suis un politicien. C'est vraiment fournir les bases, mais à partir de là, il n'y a aucun formatage qui est possible parce que l'individu reste individu et le contexte est très important.
Un premier semestre prometteur pour la Banque cantonale du Jura. Le bilan total de l'établissement atteignait à fin juin 3,1 milliards de francs, en hausse de 3,3% par rapport à fin décembre. Cette évolution positive est due notamment à l'augmentation des créances hypothécaires. Sur un an, la BCJ affiche une progression de son résultat opérationnel de 1,8%, soit de 9,64 millions de francs. Le bénéfice, quant à lui, a augmenté de 3,5% par rapport au premier semestre 2017, pour atteindre 7,4 millions de francs. Pas de seconde carrière à Courgenay. Le tribunal fédéral a débouté l'entreprise qui avait fait recours contre une décision de la cour administrative du tribunal cantonal prononcée en septembre 2016. La société souhaitait ouvrir une carrière à Courgenay et avait obtenu l'accord de la commune ainsi que du service cantonal du développement territorial. La cour administrative avait annulé cette décision. Elle estimait que la planification des carrières du plan directeur cantonal était obsolète et que l'ouverture d'une nouvelle exploitation n'était pas justifiée, un avis que le tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt rendu public aujourd'hui. Une réalisatrice jurassienne primée au NIF, Pauline Jean-Bourquin, a reçu ce week-end le Narcisse du meilleur court-métrage suisse au Festival international du film fantastique de Neuchâtel. L'œuvre de 20 minutes intitulée Crépuscule met en scène la dépression. Le prix est perçu comme une véritable reconnaissance par la jeune réalisatrice de basse-cour qui a déjà le regard tourné vers l'avenir. Pauline Jean-Bourquin nous explique comment elle envisage la suite de son parcours.
Alors moi, je vais essayer d'envoyer le film dans d'autres festivals, enfin, ce que je fais déjà depuis quelques temps. Et on verra ce qu'il arrivera pour ce film. Et parallèlement à ça, moi, je travaille comme assistante sur des longs métrages pour gagner ma vie. Mais j'aimerais commencer à décrire un documentaire.
Le documentaire, c'est quelque chose de quand même assez différent, j'imagine, du cinéma fantastique. Qu'est-ce qui vous attire dans le documentaire?
C'est vrai que c'est très, très différent. Bah, ce qui m'attire dans le documentaire, c'est surtout de rencontrer des gens, d'écouter leurs histoires, de pouvoir observer en fait juste la vie et de pouvoir la retranscrire à travers un film. Et c'est quelque chose de beaucoup plus sur le vif, c'est quelque chose de beaucoup plus spontané en fait, et de capter l'éphémère et parfois aussi de mettre en scène. mais c'est pas du tout la même chose. Et j'aime beaucoup aussi ce côté plus humain en fait du cinéma.
Des propos recueillis par Thomas Nagy, Crépuscule de Pauline Jean-Bourquin, également obtenu le Méliès d'argent du meilleur court-métrage européen au NIF. Son film sera en lice pour obtenir le Méliès d'or qui sera décerné en octobre par la Fédération européenne des festivals de films fantastiques. Et puis une information qui vient de nous parvenir, une élection tacite pour la mairie de Vandelincourt. Un seul nom est ressorti au soir du dépôt des listes, c'est le vice-maire Éric Gerber qui a fait acte de candidature. C'est d'ailleurs lui qui assure l'intérim depuis que l'ancien maire Alain Suliguer a présenté sa démission début juin pour des raisons professionnelles. C'est au Parlement et pas à l'Office fédéral des transports de décider si le réseau suisse des grandes lignes ferroviaires doit être ouvert à la concurrence. Les CFF continuent de revendiquer le monopole, alors que l'OFT a attribué deux lignes à la société concurrente du BLS. Les CFF ont déposé un recours auprès du tribunal administratif fédéral. L'ancienne régie fédérale estime que les bases juridiques ne sont pas claires. Les CFF confirment ainsi leur désir exprimé en fin d'année dernière de conserver le monopole de l'exploitation des grandes lignes. Le patron des CFF nous explique pourquoi, Andreas Meyer.
Parce qu'il y a dans notre réseau qui est énormément chargé, énormément défi d'avoir un opérateur qui est responsable pour tout. C'est aussi facile pour les clients et pour les commanditaires. Et puis, nous avons des synergies. Nous faisons tout sous le titre de notre programme RailFit 2030 pour que les prix des billets n'augmentent pas si possible et que les indemnités payées par la Confédération et les cantons reste le plus stable possible.
La France accueille les Bleus dans la ferveur aujourd'hui. L'avion qui ramène les joueurs de l'équipe de France de football après leur victoire hier à la Coupe du Monde de football s'est posé en fin d'après-midi à Roissy. Direction ensuite les Champs-Élysées pour descendre la plus belle avenue du monde devant une foule en liesse. Vos précisions, Jérémy Pignard.
Et on l'a vu il y a quelques instants, François, le bus est parti de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour rejoindre donc les Champs-Élysées. Les Bleus ont atterri sur le sol français autour de 17h. Ils ont ensuite pris leur temps à Roissy pour aller se changer, se préparer, se mettre en tenue. On les a vus en beau costume bleu avec chemise bleu clair pour ensuite aller communier tout simplement avec le public nombreux qui les attend sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. On est le lendemain du sacre en finale de la Coupe du Monde, victoire 4-2 face à la Croatie. On a vu ce grand bleu quitter l'aéroport de Roissy, ce grand bus bleu avec ses lettres d'or, champion du monde, orné évidemment de deux étoiles comme deux titres de champion du monde 1998 et 2018 désormais. Alors que là, on voit le public amassé sur les Champs-Élysées avec évidemment une foule noire de monde. On a énormément de drapeaux français, on a énormément aussi de gens qui sont venus avec le maillot de l'équipe de France sur le dos. Certains ont ressorti des t-shirts de 1998 également. On en a vu même danser avec les drapeaux, jouer au ballon. Une ambiance très très bon enfant. C'était un bus à Impérial en 1998. Là, les Bleus sont partis de l'aéroport de Roissy dans un bus entre guillemets classique. Et on ne sait pas s'ils vont vraiment changer à l'approche des Champs-Élysées pour être vraiment au plus proche du public. Mais on rappelle qu'il y a quand même tout un contexte encore d'attentat, de terrorisme qui est évidemment dans toutes les mémoires en France. Donc on n'a pas lésiné sur la sécurité. C'est maximal et ces scènes nous ramènent évidemment 20 ans en arrière lorsque la France avait remporté à domicile son premier titre mondial. Mais c'est quand même moins impressionnant, François, parce que cette année, on parlait de la sécurité. Justement, il y a une allée au milieu des Champs-Élysées qui a été dégagée pour que le bus puisse rouler sans obstacle. Et les centaines de milliers de spectateurs qui se sont amassés là, de supporters, sont agglutinés en fait derrière des barrières de sécurité de part et d'autre de cette allée centrale. Alors qu'en 1998, rien n'était vraiment organisé. L'organisation d'ailleurs avait été complètement prise de court puisque le bus à Impérial avait fait quelques centaines de mètres sur les champs avant de rebrousser chemin, tellement il y avait de monde, c'était impossible d'avancer dans une totale sécurité. On disait même à l'époque qu'il y avait autant de monde sur les Champs-Élysées que lors de la libération de Paris. Et donc cette année évidemment c'est un petit peu différent. Ensuite les Bleus seront reçus à l'Élysée par le président Emmanuel Macron, par une délégation officielle, et l'Élysée a annoncé cet après-midi que cette équipe de France, ces 23 sans doute plus le sélectionneurs seront également décorés de la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction en France dans les mois à venir. Ça ne se fera pas tout de suite. On n'a pas encore sorti les 23 ou 24 médailles, mais ça se fera dans les prochains mois. Là, le bus n'est pas encore arrivé sur les Champs-Élysées, mais c'est une histoire de quelques dizaines de minutes. Tout le monde monde les attend. Il y a quelques heures de retard ou quelques grosses dizaines de minutes de retard, en tout cas sur le protocole initial. Mais on imaginait évidemment que ça serait un petit peu le débordement du côté de l'Île-de-France et de Paris. Les Bleus qui vont bientôt communier leur deuxième titre mondial avec le public français, au moins le public parisien.
Merci Jérémy. Et le parcours victorieux des joueurs de Didier Deschamps agite même le marché chinois. L'action du fabricant d'électroménager Vati, sponsor de l'équipe de France, a vécu des tourmentes ces dernières semaines. Le groupe a basé sa campagne publicitaire sur les résultats des Bleus à la Coupe du Monde. À tort ou à raison, la question a fait débat durant plus d'un mois. Les précisions de Kylian Goffinet.
Tout débute en mars 2018. Le président du groupe Vati signe un contrat de sponsoring avec la Fédération française de football. Il lance ensuite une campagne marketing pour le mois de juin où il s'engage à rembourser certains articles à ses clients si la France devient championne du monde. Dès le lancement de la promotion, les discussions à ce propos décuplent sur le réseau social chinois Weibo. Mais dans le même temps, l'action chute de plus de 30% en un mois. Les investisseurs craignent de plus en plus un remboursement des consommateurs et à raison. La France tient sa victoire. Selon le média économique Quartz, le montant à rembourser est estimé à 11,8 millions de francs. Mauvais calcul ? Apparemment pas. Ce montant est jugé très raisonnable au vu de ce que la campagne a généré sur la toile. À titre de comparaison, une autre entreprise chinoise a déboursé près de 25 fois plus pour sponsoriser la manifestation via la FIFA. Le cours de l'action a désormais repris du poil de la bête. Il a ainsi clôturé la journée en hausse de près de 4%. Le modeste fabricant d'électroménager chinois pourrait donc être le grand vainqueur commercial de cette Coupe du Monde 2018.
Enfin, une rencontre au sommet aujourd'hui entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Helsinki. Le président français a estimé que son entretien avec son homologue russe représentait un très bon début à leurs efforts communs pour apaiser les tensions entre Washington et Moscou. La rencontre entre les deux hommes a duré plus de 2 heures. De son côté, Vladimir Poutine a jugé très réussi et très utile ses pourparlers avec Donald Trump. Il a affirmé que Moscou ne s'était jamais ingéré dans les élections américaines de 2016.
Il est 18h13 sur RFJ.
Le sport avec la loterie romande.
En hockey sur glace, le HC Ajoie n'aura pas vraiment le temps de se mettre tranquillement en jambes en début de saison dans le championnat de Swiss League. Le calendrier a été dévoilé aujourd'hui. Le HCA disputera la bagatelle de 5 matchs en seulement 13 jours, dont un 16e de finale de Coupe de Suisse face à Lausanne. Le premier match des Jurassiens dans le championnat se déroulera le 15 septembre à domicile face aux Ticino Rockets. La saison régulière s'achèvera le 13 février et le début des playoffs est prévu le 22 février. Le FC Basse-Cour s'organise suite à l'incendie de ses installations le 6 juillet. Des mesures doivent être prises par le club afin de répondre aux exigences de la Première Ligue de football. Les tribunes ainsi que les vestiaires sont inutilisables en l'état. Alors que le calendrier se met en place, quelques doutes subsistent sur le déroulement des travaux, comme l'explique le directeur sportif du FC Basse-Cour, Fabrice Ribaud.
On a encore beaucoup de choses en suspens, on attend encore des devis de la part d'artisans, autant pour le déblayage que pour le nettoyage, que pour la pose de containers. Donc à l'heure actuelle, ça nous est difficile. La seule chose qu'on peut dire, c'est que malheureusement, le premier match de championnat qui devait se dérouler le week-end du 11 ou 12 août, on n'avait aucune certitude qu'on pouvait accueillir ce match-là et qu'on a demandé le report de ce match.
Et ce report, il a été accepté ?
Alors, il a été accepté par la Première Ligue, il a été accepté également par Black Star. Et puis, en fait, ce qui a été retenu comme solution, c'est qu'il y a une inversion du match. L'incidence, c'est que le FC Basse-Cour disputera les 4 premières rencontres du championnat 2018-2019 à l'extérieur.
Enfin, en cyclisme, encore un coéquipier en moins pour le Français Romain Bardet, un des favoris du Tour de France. Alexis Vuillermoz a renoncé aujourd'hui à poursuivre l'épreuve après avoir été blessé hier dans l'étape des pavés. Le Français souffre d'une petite fracture de l'omoplate droite. L'équipe de Romain Bardet, âgée de Zerlin Mondial, a déjà dû faire face la semaine dernière à l'abandon sur chute d'Axel Daumont. Les coureurs du Tour de France aborderont demain la première étape de montagne dans les Alpes.
Ce soir, des orages isolés ne seront pas à exclure, des orages qui seront plutôt situés sur les reliefs. Sinon, dans l'ensemble, le temps sera calme et la nuit sèche, en tout cas d'un point de vue météorologique. Demain, la journée sera en principe plutôt ensoleillée, en plaine comme sur les hauteurs. Il y aura dans l'après-midi quelques formations nuageuses qui pourront produire localement quelques averses, mais rien de bien très grave. Et si averses il y a, ce sera plutôt entre le milieu et la fin de l'après-midi. Du côté des températures, elles resteront estivales. Elles oscilleront à l'aube entre 14 et 16 degrés. Les maximales avoisineront les 28 degrés.